Chapitre 2 Alexandrie. Il y avait 2 ans que, de sa capitale où elle était rentrée, toute défaite après l'écroulement des ides de mars, Cléopâtre suivait la guerre civile dont était déchiré le monde romain. Cette âpre lutte, qui, tantôt donnait l'avantage aux meurtriers de César, tantôt le rendait à ses vengeurs, la faisait passer par de rudes alternatives. L'émoi qu'elle ressentait n'était pas seulement sentimental. Au regret du grand homme qu'il avait passionnément aimé, au désir d'en voir le monstrueux assassinat puni, se mêlaient de graves soucis politiques. Depuis 1 siècle environ, l'Égypte était devenue ingouvernable. Remuante, corrompue, sanguinaire, elle n'apparaissait plus que comme une proie aux nombreux compétiteurs qui s'en disputaient le trône. Afin de s'y maintenir, afin d'utiliser les magnifiques ressources de son sol, pour venir à bout des bandes de pirates, de déserteurs, d'exilés, de forçats en rupture de ban dont l'armée était en grande partie composée, il fallait une autorité dont les lagines ne disposaient plus. Incapable du moindre effort, ces dilettantes avaient pris l'habitude, chaque fois qu'éclatait une nouvelle insurrection, d'appeler Rome à leur secours. Ptolémée Aulette n'avait reconquis sa couronne qu'à force d'argent distribué aux sénateurs, et, quant à Cléopâtre, nous savons quels événements lui avaient restitué la sienne. Si la paix ramenée par elle avait paru bienfaisante, si l'on se louait d'une certaine prospérité revenue, beaucoup déploraient que ce fût au prix d'un scandale et d'une alliance qui, d'un jour à l'autre, pouvait se transformer en domination. À se voir seul ainsi, environné d'opposants, de ruses, privé des légions qui, pour les besoins de la guerre, lui avaient été reprises, la reine avait des jours d'accablement. Elle en sentait le poids surtout lorsque ses ministres venaient lui rendre compte, soit des ravages causés par l'épidémie de peste si terrible que les embaumeurs ne suffisaient plus à leur besogne et que les morts pourrissaient sur la voie publique, soit de la famine qui, depuis 2 saisons, ravageait le pays, ou encore des dilapidations d'une bureaucratie avide et sans conscience, de tous les soucis en un mot que chaque jour fait naître et renaître dans le métier difficile de régner. Elle soupirait, elle songeait au temps où l'amour du grand homme la délivrait de soucis, où elle n'avait qu'à lever son sceptre d'ivoire pour que tous ses désirs fussent exaucés. Aujourd'hui, que restait-il de l'ancienne alliance? C'était Rome, plutôt, qui aurait eu besoin de s'en réclamer. Elle s'en réclamait, d'ailleurs, et, dans le désarroi où elle était, les 2 factions avaient tour à tour imploré l'aide de la flotte égyptienne. Les 2 factions avaient tour à tour imploré l'aide de la flotte égyptienne. Si Cléopâtre n'avait pas répondu à cet appel, c'est qu'elle en était à se demander « Qui entendre ?» À quel parti appartiendra demain la République? Si celui des conjurés l'emportait, il était évident que, désemparé comme il l'était, le royaume d'Égypte, ainsi que l'Hellade, que la Syrie, que la Gaule et l'Espagne, que la Mauritanie, entreraient dans le cycle méditerranéen des provinces asservies. De l'autre parti, au contraire, elle pouvait attendre des ménagements. Serait-il possible que des hommes, amis de César, et se disant les continuateurs de son œuvre, ne veillassent point sur celle que le dictateur nommait déjà son épouse, et sur l'enfant à qui la nature avait imprimé son masque? Mais lesquels seraient les maîtres? À se le demander, Cléopâtre usait ses nerfs. Et quelle n'avait pas été son angoisse au commencement de l'automne, en apprenant que les armées de Cassius occupaient, en Macédoine, de très fortes positions? Puis l'hiver avec ses brumes, ses tempêtes était venu, la navigation avait cessé et l'on était maintenant sans nouvelles. La vue d'Alexandrie, remplie pour la jeune femme de souvenances et de craintes, la plongeait dans de longues rêveries. C'était la coupe toujours pleine où s'abreuvaient ses pensées. Souvent, à l'heure où l'horizon s'allume, où les magies du couchant jettent des lueurs empourprées, il lui arrivait de monter sur une des terrasses dont se creusaient les façades du Bruchium et de contempler la ville d'or. qu'elle était belle ainsi, sur son ciel de feu, au bord de sa plage blonde, et gardée la nuit par le flambeau géant de son phare. Comme elle s'était enrichie depuis que le grand fondateur en avait fixé le plan et dessiné l'enceinte à la forme d'une chlamyde macédonienne. La souveraine d'une telle cité pouvait être fière. De quelque côté que le regard se tournât, ce n'était que marbre, dôme d'émail ou de faïence, porte triomphale, fronton noblement découpé. Au sommet d'un monticule, voici le Panéum, plaisamment surnommé « Cage des Muses ». C'est là que, selon une tradition très ancienne et à laquelle les Lagides sont restés fortement attachés, poètes, musiciens, peintres et sculpteurs, à quelque nation qu'ils appartiennent, trouvent, pourvu seulement que, maîtres en leur art, ils plaisent aux filles d'Apollon, une large hospitalité. Au centre de sa colonnade, voici la bibliothèque, riche encore, après le terrible incendie, de 700 000 volumes, et qui, entre autres ouvrages précieux, conserve la première traduction de la Bible en grec qu'ont élaborée les Sétantes. Non loin de là, comme pour en recevoir plus aisément leur nourriture spirituelle, s'agglomèrent les nombreux bâtiments du Sérapéum. Foyer de l'histoire et de la philosophie, de la médecine, de l'astronomie, des mathématiques autant que gardienne des textes, cette université fameuse à qui l'on doit, après 2000 ans, de posséder ce qui survit aujourd'hui des lettres grecques, était véritablement la lumière du monde. L'enseignement qu'on y recevait, les noms des savants professeurs, les méthodes érudites, les instruments de précision et jusqu'aux papyrus mis à la disposition des travailleurs, jouissaient d'une telle renommée que de Rome, d'Athènes, d'Asie même, on accourait dans ses murs et que les familles riches de tout pays, croyant chez un de leurs enfants reconnaître quelque aptitude exceptionnelle, voulaient que cet enfant portât le sceau éclatant d'être élève d'Alexandrie. À travers de longues, de larges avenues rectilignes où voitures, litières, cavalcades circulent à l'aise, le regard de Cléopâtre continue à errer. Il s'arrête sur les cirques, les théâtres, les gymnases devant lesquels une multitude stationne, attirée par des affiches. Sur le stade, avec sa piste formée de méandres, sur l'hippodrome, si vaste que 20 000 spectateurs peuvent à peine le remplir, sur les temples surtout, nombreux et superbes qui émergent des maisons, les dominent de leur masse mystérieuse, et plus longuement, avec piété, sur le Soma, ce mausolée où, dans un sarcophage de cristal, repose le corps rapatrié de l'ancêtre héroïque. Toutes ces pierres, toutes ces richesses, la reine en suppute la valeur, avec l'orgueil alarmé de se dire « Seront-elles à moi demain ?» Et par-delà l'espace visible, sa pensée poursuit l'inventaire du magnifique héritage. Elle songe à l'inépuisable vallée qu'arrose le fleuve divin, aux 30 000 cités qui, du nord au sud, y dressent leur rempart séculaire, à Bubaste où règne la déesse d'amour, à Memphis endormie au pied de ses pyramides, à Thèbes la sainte, à Hermontis, surnommée la gloire des deux horizons, à Edfou qui possède les plus antiques trésors. Plus loin encore, sa vision atteint les régions méridionales qui produisent le granit et les aromates, les vignobles légendaires dont chaque grappe est si pesante que deux hommes peuvent à peine la porter sur le pressoir. Elle rejoint l'île heureuse où des sentiers parfumés gardent la trace de ses pas unis à ceux de son amant et, revenue à la confiance, elle se dit « Non, Égypte, chère Égypte, terre d'Osiris et de Ra, toi qui remplis les greniers du monde et gardes pieusement tes morts, jardin de palmes et de treilles, rive où vont boire les ibis, tu ne connaîtras pas la servitude. » Elle avait raison. On a toujours raison d'espérer. Le salut était en route. Une décisive victoire venait d'être remportée par les armées césariennes. Échappée de Naxos, des pirates en apportaient la nouvelle. Brutus et, après lui, Cassius, avaient été écrasés dans les plaines de Philippe, et tous deux, en se transperçant de cette lame que leurs mains sacrilèges avaient eu l'abomination de plonger dans le sang de leurs bienfaiteurs, s'étaient fait justice. Cléopâtre respirait. Sa vie obscurcie depuis la date fatale reprenait un peu de couleur. Couvert de brumes encore, l'avenir n'était plus cette masse opaque où l'on ne peut rien distinguer. Une sorte d'accord se rétablissait